Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bien sûr, on connaît les coccinelles, les scarabées, les hannetons, les lucioles, mais il y a plus de 387 000 espèces de coléoptères réparties à peu près sur toute la planète, enfin sur tous les continents, à l'exception notable du pôle Nord. Et ces coléoptères sont présents sur Terre depuis plusieurs centaines de millions d'années. Une exposition au musée des Confluences à Lyon nous propose de découvrir à travers les regards scientifiques et artistiques ces insectes si peu communs et qui représentent plus du quart de la diversité animale. Jean-François Courant, chargé d'exposition au musée des Confluences, est mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Bonjour tout le monde, bonjour Jean-François Courant.
Bonjour.
Coléoptères, insectes extraordinaires, c'est l'intitulé donc de cette exposition au musée des Confluences à Lyon. Je venais de le préciser, c'est jusqu'au 28 juin. Il y a une approche scientifique, une approche didactique, mais il y a aussi une approche artistique. On va en parler, mais tout d'abord, commençons par le côté didactique. Qu'appelle-t-on un coléoptère ?
Alors un coléoptère, c'est un type d'insecte bien particulier, c'est qui a une, comme caractéristique de posséder ce qu'on appelle des élytres. Les élytres sont des ailes qui sont devenues rigides et qui protègent les ailes membraneuses qui leur servent au vol. C'est d'où leur nom, coléoptère, vient de coléo qui veut dire étui, fourreau, et ptère, aile, donc c'est les ailes dans le fourreau. Voilà.
Alors d'où est partie cette idée de faire cette exposition ?
Alors ça vient de notre comité scientifique, de Denis Richard, qui avait travaillé avec nous déjà sur une précédente exposition, qui s'intitulait Venenum, un monde empoisonné, et qui est un féru de coléoptères et un passionné, et qui nous a apporté ce sujet-là, donc on l'a creusé, on l'a étudié, et on a vu que, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, 387 000 espèces, une diversité monstrueuse.
Enfin, de 387 000 espèces recensées.
Connues à ce jour, exactement. Et une diversité de formes, des interactions avec l'être humain depuis très longtemps, du matériel ou des matériaux utilisés par les artistes, photographes ou sculpteurs, ou enfin beaucoup d'interactions avec l'être humain, des histoires, plein d'anecdotes autour des coléoptères. Et donc on s'est emparé de ce sujet-là avec plaisir et on a produit cette exposition-là.
Alors comment commence cette exposition ? Pourquoi ? Est-ce qu'il y a d'abord cette envie de montrer cette diversité ? Et je profite pour vivement conseiller à ceux qui peuvent voir quelques images de cette exposition à la page du Réveil culturel de le faire, parce que vous avez aussi joué sur le côté esthétique de ces insectes.
Voilà, on a vraiment voulu mettre l'accent sur la beauté, sur le côté étonnant et la diversité de formes, de motifs, de couleurs. Il y en a qui sont iridescents, il y en a qui sont avec des cornes ou des mandibules extraordinaires. Enfin, on a vraiment voulu mettre l'accent sur ces éléments-là pour montrer la diversité. Donc, on a une pièce qui représente plus de 130 espèces où on a juste des espèces présentées sous forme de spirale, les uns à la suite des autres, plus petits au plus grand. Et juste pour montrer cette extraordinaire beauté et diversité de formes que présentent les coléoptères.
Avec autant de couleurs possibles.
Bien sûr.
Alors, puisque vous avez parlé des petits et des grands, ça peut aller jusqu'à quelle taille un coléoptère ?
Alors, les plus grands peuvent atteindre 17 cm, donc la taille d'une main d'adulte. Et le plus petit mesure moins d'un tiers de millimètre, donc 0,3 mm.
Là, il faut avoir un microscope. Hein.
Voilà, alors même une très bonne loupe, c'est compliqué. Et en fait, il passerait parfaitement à travers le chat d'une aiguille, sans problème, sans toucher les bords. Donc c'est pour toujours avoir des proportions. On a du plus petit au plus grand et au milieu, il y a à peu près toutes les dimensions.
Et puis, bien sûr, les coléoptères qui ont influencé des artistes. Ça, c'est vraiment très, très présent dans cette exposition. Mais tout d'abord, il fallait surtout parler des relations que nous entretenons, nous, avec ces insectes.
Oui, elles sont extrêmement diversifiées, elles sont présentes depuis très longtemps en fait, c'est des relations qui reviennent depuis presque l'apparition de l'homme, puisqu'on a des traces préhistoriques d'amulettes sculptées en forme de coléoptères qui servaient sans doute de talisman pour se protéger ou avec un aspect religieux ou une croyance derrière, mais on a aussi beaucoup d'interactions sur l'agriculture avec les doryphores ou les hannetons qui sont des ravageurs de culture. On va avoir des interactions... on utilisait comme médicament dans la pharmacopée au niveau des apothicaires. On va avoir tout ce qui va être animaux de compagnie au Japon. Enfin, l'idée, c'était de présenter le maximum de relations différentes.
Des fois même comestibles. Hein.
Oui, voilà, on en parle aussi de l'entomophagie, donc le fait de consommer des insectes et que les coléoptères pourraient bien être une solution au problème en 2050 de notre incapacité à produire suffisamment de protéines animales pour nourrir la population humaine.
Alors, que disent ces insectes, que disent ces coléoptères à propos de l'état de notre planète ? Parce que ça fait aussi partie de ces questions qu'on se pose en voyant cette exposition, Jean-François Courant.
On va voir qu'ils ont une répartition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mondiale. Ils sont présents sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Ils sont absents des mers et des océans où ils sont remplacés par les crustacés. Mais en dehors de ça, ils sont présents sur la totalité de la Terre. Ils représentent une espèce animale sur quatre, décrite encore une fois, est un coléoptère. Donc c'est extrêmement important en termes de diversité et d'importance écologique. Et ce sont tous systématiquement des maillons indispensables à la chaîne alimentaire.
S'il fallait les utiliser comme indicateurs de l'état de la planète, que peut-on dire aujourd'hui ? Que disent les scientifiques qui ont été très impliqués dans cette exposition d'ailleurs ?
Alors on voit de façon générale une baisse très importante depuis quelques années de la biodiversité. Et les insectes et les coléoptères ne font pas exception. Et on voit en fait se raréfier de plus en plus les insectes dans nos campagnes. Le meilleur exemple est le hanneton. Il y a quelques générations, il était très commun de rencontrer des hannetons dans les campagnes ou même en périphérie des villes.
Et même de se plaindre.
Et de s'en plaindre, bien sûr, puisque c'était des ravageurs de culture et que c'était des années hannetons où ils pullulaient véritablement. Désormais, moi je n'ai jamais vu un hanneton vivant de ma vie. Pourtant, j'ai été élevé à Grenoble et dans les campagnes environnantes et je n'ai jamais croisé un hanneton vivant. Je les ai vus dans nos collections, bien sûr, mais voilà. Donc c'est... Et je suis pas le seul. Notre génération n'a pas connu d'année à hanneton entre guillemets ou de. Donc c'est un signe.
Ouais, c'est un signe. Avec quelles conséquences ?
Alors pour le hanneton qui est un ravageur de culture, je pense que les agriculteurs sont plutôt contents. Mais c'est un indicateur surtout d'une perte d'un maillon de la chaîne alimentaire avec des conséquences importantes qu'il est très difficile d'évaluer aujourd'hui.
Alors c'est ça qui est assez amusant quand on est dans cette exposition, coléoptères, insectes extraordinaires, c'est est-ce qu'il y a des insectes qui sont plutôt amis ou considérés comme amis, d'autres comme menaçants, encombrants, voire carrément antipathiques. Alors vous avez pris le parti de ne pas faire de hiérarchie, d'une part parce que c'est impossible de faire.
Exactement, donc bien sûr on va avoir des coléoptères qui vont être dits positif. Le plus classique et le plus connu, c'est bien sûr la coccinelle, qui est l'ami des jardiniers en s'attaquant aux colonies de pucerons et en protégeant donc tout ce qui est de fleurs et plantes des jardiniers. À l'inverse, on va justement avoir le doryphore ou le hanneton, qui ont été vraiment de véritables pestes agricoles, principalement pour le doryphore au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui ravageait les cultures de pommes de terre. On va avoir le hanneton qui va s'attaquer aux arbres fruitiers, on va avoir les charançons qui vont s'attaquer non plus maintenant aux plantes directement, mais aux récoltes, les stocks de grains et ainsi de suite. Mais à l'inverse, on va avoir dans certaines cultures des déifications d'insectes et principalement de scarabées. Typiquement en Égypte, on a un dieu scarabée qui s'appelle Khepri et qui est un dieu à tête de scarabée et qui est responsable de la renaissance de l'astre solaire tous les matins et de sa course dans le ciel.
Puisque vous avez commencé à parler de ces symboles et représentations à travers le monde en ce qui concerne les coléoptères, on peut parler bien sûr du scarabée, de ce symbole de renaissance de l'Égypte antique. On peut aussi parler de la luciole, et c'est ce qu'on apprend, la luciole qui est un symbole spirituel en Asie.
Exactement, c'est un symbole à la fois de l'âme des défunts. Donc c'est un peu comme, pour faire un parallèle, en Europe on a un peu la même croyance sur les faux follets au niveau des marécages. Et on a aussi c'est un symbole, puisque les lucioles vivent très peu de temps, c'est un symbole du côté éphémère de la vie. Donc il y a ces deux aspects-là, et c'est pour ça qu'on retrouvait très souvent des lucioles dans les estampes japonaises qui étaient représentées. On présentait la chasse aux lucioles, qui était un loisir pratiqué principalement par les femmes et par les enfants, et on a beaucoup beaucoup d'illustrations avec ça, donc on en présente quelques-unes dans l'exposition.
C'est tout à la fois Dieu, mais aussi le diable, que cette représentation à partir des coléoptères à travers le monde, par exemple en Afrique. Vous dites que c'est plutôt ça marche beaucoup avec la magie noire.
C'est ça, en Afrique on va avoir quelques coléoptères particuliers qui vont avoir une croyance qui leur est associée. Pour certains, quand on va croiser certains ou qui vont rentrer dans notre maison, ça va être le signe de la venue d'un proche qui va venir nous visiter ou d'une arrivée prochaine de quelque chose de positif. Et à l'inverse, si on est heurté par une autre espèce de cétoine, pour les nommer, En fait, il faut aller consulter très rapidement un sorcier puisqu'on vous a jeté un mauvais sort. Donc c'est vraiment, on a les deux aspects, pourtant ce sont le même grand groupe d'insectes, mais en fonction des espèces, on va leur attribuer un symbole plutôt positif ou à l'inverse un symbole plutôt négatif.
Alors comment représenter ça dans une exposition ?
C'est complexe, bien sûr. Après, justement, comme vous le disiez, on n'a pas choisi de faire une hiérarchie en mettant tous les symboles positifs d'un côté et tous les symboles négatifs de l'autre. Au contraire, on s'est intéressé à mettre des vitrines avec des objets qui montraient cette dualité, puisque depuis le début, les insectes sont, pour la plupart des gens, quelque chose qui est un peu effrayant, un peu répugnant. Mais à l'inverse, quand on voit, comme vous le disiez tout à l'heure, la beauté de certains spécimens et le côté extraordinaire de leur forme et de leur morphologie, on va être attiré, on va être étonné, on va être émerveillé. Donc on a toujours cette dualité et on a choisi de l'assumer tout au long de l'exposition.
Parlez-nous, Jean-François Courant, du lucane cerf-volant.
Alors, le lucane cerf-volant, en Europe, était utilisé un peu comme une panacée. C'est-à-dire qu'il était... On l'utilisait pour soigner à peu près tous les maux.
Il ressemble à quoi ?
Alors, lucane cerf-volant, ça va être ce qu'on appelle vulgairement un gros scarabée, avec d'énormes mandibules. C'est quelque chose qui fait...
Qui fait peur, on peut le dire.
Voilà, c'est pour ça que dans les natures mortes, il était représenté, on estimait que ses mandibules étaient des cornes et que c'était le symbole du diable. Mais en pharmacologie, on allait l'utiliser... Alors, on allait carrément accrocher des lucanes morts autour des coups des enfants pour les protéger des maladies. Donc, c'était un talisman extrêmement puissant. À d'autres occasions, on allait presser un lucane et faire tomber le jus de ce lucane directement dans l'oreille et ça les soignait. Enfin, on pensait que ça les soignait. Enfin, ça, c'est pas forcément avéré. Les otites et même la surdité.
On va parler de l'arlequin de Cayenne, des insectes rouges, du hanneton, bien sûr. On va revenir sur la coccinelle et d'autres coléoptères qui ont influencé certains artistes à l'occasion de cette exposition. Vous restez avec nous, Jean-François Courant. Mais là, on écoute un chanteur, un rocker, Jean-Louis Aubert, qui parle lui aussi des coléoptères.
Le réveil culturel. Toufi Kakem.
Parce que ça craint.
ça craint les coléoptères. À Lyon, en ce moment, donc, une exposition consacrée à ces insectes extraordinaires, c'est au musée des Confluences. Mais c'est vrai qu'ils sont, ces insectes sont tout à la fois bêtes à bon Dieu et muses des artistes, et ce, depuis le XVIIe siècle, où ils vont être très représentés. On a parlé de quelques spécimens, mais revenons à la coccinelle. Comment se fait-il? Bon, tout le monde aime les coccinelles, on est d'accord, Jean-François Courant, vous êtes chargé d'exposition au musée des Confluences. Je pense que la star de cette exposition, c'est quand même la coccinelle. Pourquoi elle est toujours perçue positivement et pourquoi elle symbolise la Vierge Marie? Et depuis quand d'ailleurs?
Alors ça va dater du XIe siècle. C'est une légende, hein. On a trouvé ces traces-là. Ça viendrait d'un condamné à mort suite à un meurtre au XIe siècle. Et en fait, donc le procès est assez succinct. Il est condamné à mort pour être décapité en place publique. La population assiste à l'exécution et le roi Robert dit le Pieux assiste également à cette exécution-là. Et en fait, au moment où le bureau va faire tomber sa hache sur le cou du malheureux, une coccinelle vient se positionner pile à l'endroit où la hache devait tomber. Le bourreau, qui a un cœur selon la légende, veut la chasse de la main, relève sa hache et la coccinelle revient se replacer au même endroit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le roi assistant à cet événement assez inattendu, à cette récurrence, il voit un signe divin et décide de gracier le condamné à mort. Il fait bien puisque quelques temps plus tard, on va découvrir qu'il est innocent et que le meurtrier va être arrêté. Et c'est ce qui a donné lieu en fait à cette croyance populaire sur la coccinelle étant la bête à bon Dieu, la beste à bon Dieu en vieux français. L'intermédiaire entre Dieu et l'être humain.
La seule de couleur rouge qui a droit à ce statut, parce que généralement, et ça on l'apprend à travers l'exposition, les insectes rouges sont plutôt des symboles négatifs.
Exactement, donc quand on va regarder principalement sur les natures mortes, donc les tableaux représentant des fleurs et d'autres éléments, on va avoir beaucoup d'insectes qui vont être représentés dedans, et systématiquement, les insectes de façon générale, et principalement les insectes rouges, hormis la coccinelle, c'est la seule exception, sont des symboles négatifs, sont des symboles qui font référence au péché originel, donc à Adam et Ève qui sont chassés du paradis. Mais c'est la coccinelle donc, qui est le seul présage positif, le seul élément, le seul symbole positif, religieux bien sûr, qui est présent dans ces natures mortes la plupart du temps.
Alors justement, ces natures mortes, ces tableaux qui accompagnent cette exposition plutôt didactique, scientifique, ces tableaux sont toujours présents. Comment ces insectes ont influencé les artistes? Comment, à partir du début du XVIIe siècle, les coléoptères sont souvent représentés au sein des natures mortes? Ça, on le trouve principalement chez des peintres flamands et hollandais, ou on peut le trouver un peu partout dans le monde, Jean-François Courant?
Alors, principalement chez les peintres flamands qui sont fait cette spécialité de peindre des natures mortes. Après, il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés de la thématique ou du sujet coléoptère. On a des artistes qui se sont emparés au niveau de la sculpture, comme Yann Fabre, qui a recouvert le palais de Bruxelles, le plafond du palais de Bruxelles, pardon, avec des milliers d'élytres iridescents, donc d'un verre iridescent magnifique. Il a aussi fait, et on présente une œuvre dans l'exposition, ce qu'on appelle une vanité. Donc c'est un crâne d'homme recouvert entièrement d'élytres et qui tient dans sa bouche une perruche. Et c'est vraiment une pièce extrêmement forte et extrêmement
intéressante. Qu'est-ce qu'elle dit pour vous?
C'est une vanité, donc c'est un symbole du côté éphémère de la vie, c'est-à-dire que à un moment ou à un autre, on finira tous par mourir, et c'est pour prendre conscience de cet élément-là et en fait de vivre sa vie, le fameux carpe diem entre guillemets, pour apprécier chaque instant.
L'arlequin de Cayenne, vous pouvez nous le décrire?
Alors l'arlequin de Cayenne est un peu un coléoptère à part, c'est-à-dire que c'est un insecte qui vient d'Amérique du Sud principalement et qui a une coloration zébrée, marron et noire, et qui a la particularité d'avoir des pattes extrêmement longues, plus de 15 cm, près de deux fois la taille de l'insecte. Et il a été représenté dans les natures mortes, dans une des natures mortes, alors qu'il n'avait absolument rien à y faire, entre guillemets, puisque l'ensemble des fleurs qui sont présentées sont des fleurs européennes. Mais il y a cet intrus, entre guillemets, d'Amérique du Sud qui a été introduit volontairement par l'artiste, de par sa beauté, de par son étrangeté. Donc c'est un petit clin d'œil qu'on fait là-dessus en expliquant que c'est un choix de l'artiste complet et qu'il a sans doute vu ce spécimen-là plutôt dans un cabinet de curiosité que dans un atelier d'artiste.
Alors bien sûr, il y a de la peinture, vous venez d'en parler, il y a aussi des installations, de l'art contemporain, mais il y a tout ce travail ou ces travaux multiples et variés des photographes qui se sont spécialisés justement dans l'art de traquer, de photographier les coléoptères.
Voilà, on va présenter deux artistes principalement en photographie, deux photographes contemporains, un anglo-saxon qui s'appelle Levon Bliss et qui a la particularité de présenter une œuvre qui est un composite de entre 900 et 1000 clichés et qui permet de zoomer dans le plus infime détail et de magnifier chaque partie d'un insecte. Donc on a une très très belle reproduction qui fait plus d'1 mètre 80 de haut et qui nous permet de voir vraiment les détails d'un spécimen extrêmement graphique. Et on a un autre artiste français, parisien, qui s'appelle Pascal Goetz, et qui a travaillé, lui, sur une interprétation de la couleur et des motifs qu'on peut voir sur certaines carapaces de coléoptères. Et en fait, son travail va uniquement par un jeu de lumière mettre en avant des formes où on va reconnaître des masques africains, des totems, sur des motifs qui sont des motifs purement naturels et qui sont présents sur quelques coléoptères.
Et c'est très beau à voir. Là aussi, si vous avez la possibilité de vous rendre à la page de l'émission Le Réveil Culturel, surtout n'hésitez pas. Alors, bien sûr, le Musée des Confluences a son fond de représentations d'insectes, de photos d'insectes.
Alors, en termes de photographie d'insectes, on a quelques pièces, quelques photographies, mais on a principalement des spécimens épinglés, puisqu'on est historiquement le descendant du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon.
Ouais, c'est bien de
donc
le rappeler.
On a énormément de collections entomologiques et avec de très nombreux coléoptères représentés, avec bien sûr une diversité étonnante. On a peu de photographies sur ces pièces-là, puisqu'on présente la plupart du temps les pièces et non pas les photos. Mais peut-être que c'est quelque chose qu'on développera à l'avenir, c'est possible.
Et toutes les peintures, ce sont des prêts, je suppose que...
Alors la peinture, ça va être un interactif, c'est-à-dire qu'on a un écran et on va pouvoir en fait naviguer, zoomer dans la nature morte et aller chercher le détail, chercher le spécimen. Et à chaque fois que vous allez tomber sur un des insectes ou sur un coléoptère, puisqu'il y en a quand même 6 qui sont représentés dans cette nature morte qu'on a choisie, vous allez avoir le symbolisme, ou le symbole, la représentation et le message qui est derrière cette représentation au sein de ces œuvres que sont les natures mortes.
Voilà, et on n'écoute pas les Beatles.
Non, mais on n'a pas les Beatles. Par contre, on a un petit clin d'œil, quelque chose qui m'a beaucoup amusé. C'est on présente une coccinelle, la voiture, la Volkswagen.
Bien sûr.
Épinglée, et puis on explique l'histoire de cette automobile si particulière qui était une commande de Hitler à Ferdinand Porsche, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On va expliquer ce succès mondial et le fait que, au départ, elle s'appelle la Volkswagen Type 1, c'est son nom de modèle, mais elle va rencontrer un succès à peu près partout dans chaque pays où elle va s'implanter, et la population locale va systématiquement lui attribuer un surnom qui sera en lien direct avec sa forme très courbée, très très globuleuse, et qui sera un surnom de coléoptère. Donc on va l'appeler Scarabée au Mexique, on va l'appeler Beetle en Angleterre, on va l'appeler Hanneton dans d'autres régions, et en France, on va l'appeler Coccinelle.
Et quels sont les coléoptères qu'on risque de croiser en allant à Lyon pour voir cette exposition, pour terminer cet entretien, Jean-François Courant?
Alors, dans les parcs et les jardins,
ouais,
vous voulez dire
ouais.
Alors, principalement les coccinelles, bien sûr. On va pouvoir croiser... Alors, les lucioles, ça devient un peu plus compliqué, mais on en trouve quelques-uns, mais pas forcément à Lyon, plutôt dans les campagnes, on en a encore quelques-unes qui sont visibles, si on a de la chance. On va rencontrer beaucoup de charançons, beaucoup de carabes. Enfin, il y a, comme vous le disiez au début, une espèce animale sur 4 et 387 000 espèces. Donc c'est une masse énorme de diversité et que sont les coléoptères. Donc on a beaucoup de chance d'en croiser. Alors, au sein de Lyon, dans les parcs, au milieu de la rue, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais en campagne, sans aucun problème, vous pouvez rencontrer beaucoup, beaucoup d'espèces.
Si vous avez la chance d'habiter cette belle ville de Lyon, si vous n'habitez pas très loin de Lyon, ou si vous êtes de passage, ne ratez surtout pas cette exposition jusqu'au 28 juin 2020, d'ailleurs, au Musée des Confluences à Lyon. Coléoptères, insectes extraordinaires. Merci Jean-François Courant, vous êtes chargé d'exposition à ce musée. Merci beaucoup d'être passé ce matin nous en
Merci.
Parler.
Tiens.